Ainsi, Évrard, dans son antre suiffé, se prenant pour une véritable incarnation des puissances sataniques, s'entretenait d'espoir de vengeance et de vision de luxure. Sans un tic qui, par instant, lui déformait brusquement le visage, il n'eût pas été dépourvu d'une certaine et rude séduction. Son regard avait de l'ardeur et de l'éclat, tandis qu'il parcourait Béatrice des mains fébrilement et qu'elle le laissait faire toujours placide, elle dit « Tu dois être content, le pape est mort. »«
Oui, oui, » dit Évrard avec une joie méchante. « Ces physiciens lui ont fait digérer des émeraudes pilées. Bon remède qui tranche les boyaux. Quels qu'ils soient, ces médecins-là sont de mes amis. La malédiction de maître Jacques commence à s'accomplir. Un crevé déjà, la main de Dieu frappe vite quand la main des hommes y aide. »
« Et aussi celle du diable, » dit-elle en souriant. Il avait relevé sa jupe sans qu'elle eût le moins du monde protesté. Les doigts gantés de cire de l'ancien templier caressaient une belle cuisse ferme, lisse et chaude. « Veux-tu l'aider à frapper encore ?» reprit-elle.
« Qui ?»«
Ton pire ennemi, à qui tu dois ton pied brisé. »«
Nogaret ?»
murmura Évrard. Il recula un peu, et son tic par trois fois lui tordit le visage. Ce fut elle qui se rapprocha. « Tu peux te venger si tu le désires. N'est-ce point ici qu'il se fournit en lumière? Vous lui vendez ses chandelles ?»«
Oui, »
dit-il. « Comment sont-elles faites ?»«
Des chandelles très longues, en cire blanche avec des mèches traitées à part, qui donnent peu de fumée. Pour son hôtel, il use de grands cierges jaunes qu'il ne prend pas chez nous. Ces chandelles-là, qu'on appelle les chandelles à légiste, il les emploie seulement lorsqu'il est à écrire dans son cabinet, et il en brûle 2 douzaines la semaine.
En es-tu sûr?
Son concierge les vient quérir par grosse.
Il désigna le casier.
Sa prochaine provision est déjà apprêtée, et celle de Marigny à côté, et celle de Maillard, le secrétaire du roi. C'est avec cela qu'ils éclairent tous les crimes que fabrique leur cervelle. Je voudrais pouvoir cracher dessus le venin du diable.
Béatrice continuait de sourire. Je peux te donner aussi bien, dit-elle. Moi, je sais le moyen d'empoisonner une chandelle.
Est-ce possible ?
Demanda Évrard. Si on en respire la flamme 1 heure, on n'en regarde plus jamais d'autre, sinon celle de l'enfer. C'est un moyen qui ne laisse point de traces et n'a pas de remède.
Comment le connais-tu ?
Ah, voilà, fit Béatrice en ondulant des épaules et en baissant les paupières. Une poudre qu'il suffit de mêler à la cire.
Et pourquoi désires-tu frapper Nogaret ?
Demanda Évrard. Toujours se dandinant comme par coquetterie, elle répondit « Peut-être parce que d'autres gens que toi veulent aussi s'en venger.
Tu ne risques rien. »
Évrard réfléchit un instant. Son regard se faisait plus aigu, plus luisant.
« Alors il ne faudrait pas tarder, » dit-il en précipitant ses mots. « Il se pourrait que j'aie à partir bientôt, ne le répète point surtout, mais le neveu du grand maître messire Jean de Longwy a commencé de nous compter. » Il a juré, lui aussi, de venger messire de Molay. Nous ne sommes point tous morts, malgré le maudit qui nous occupe. J'ai reçu l'autre jour un de mes anciens frères, Jean Dupré, qui me portait un message, m'informant de me tenir prêt à m'en aller vers Langres. Ce serait belle chose que d'amener en présent à messire de Longwy l'âme de Nogaret. Quand pourrais-je avoir cette poudre ?
Je l'ai là, dit calmement Béatrice en ouvrant son aumônière. Elle tendit à Évrard un sachet qu'il ouvrit avec prudence, et qui contenait 2 matières mal mêlées, l'une grise, l'autre cristalline et blanchâtre.
« C'est de la cendre !»
dit Évrard en montrant la poudre grise. « Oui, la cendre de la langue d'un homme que Nogaret a fait périr. Je l'ai mise à dessécher dans un four à la minuit. C'est pour appeler le diable. » Puis elle désigna la poudre blanche. « Et là, c'est du serpent de Pharaon. Cela ne tue qu'en brûlant. »
« Et tu dis qu'en mettant les 2 dans une chandelle ?»
Béatrice abaissa le front avec assurance. Évrard fut un moment hésitant, son regard allait du sachet à Béatrice. « Mais il faut que ce soit fait devant moi, » ajouta-t-elle. L'ancien templier alla chercher un réchaud dont il attisa les charbons. Puis il tira une chandelle de la provision préparée pour le garde des Sceaux, la plaça dans un moule et la mit à mollir. Ensuite, il la fendit avec une lame et versa le long de la mèche le contenu du sachet. Béatrice tournait autour de lui en marmonnant des paroles de conjuration où revint 3 fois le prénom de Guillaume. Le moule fut remis au feu, puis refroidi dans un bac rempli d'eau. La chandelle ressoudée ne gardait aucune trace de l'opération.
Pour un homme qu'on a plutôt habitué à manier l'épée, ça n'est point un mauvais travail, »
dit Évrard, l'air cruel et content de lui. Et il alla remettre la chandelle où il l'avait prise, en ajoutant
« Qu'elle soit bonne messagère d'éternité !»
La chandelle empoisonnée au milieu du paquet, et sans qu'on pût la distinguer des autres, était maintenant comme le gros lot d'une abominable loterie. Quel jour le valet chargé de garnir les chandeliers du garde des Sceaux l'attirerait-il ? Béatrice eut un petit rire, mais déjà Évrard revenait vers elle et la saisissait à plein bras.
« Il se peut que nous nous voyions pour la dernière fois. »«
Peut-être oui, peut-être non, » dit-elle. Il l'entraîna vers le grabat. « Comment faisais-tu quand tu étais templier pour rester chaste ?» demanda-t-elle.
« Je n'ai jamais pu le demeurer, » répondit-il d'une voix sourde.
Alors la belle Béatrice leva les yeux vers les solives, où pendaient les cierges d'église, et elle se laissa pénétrer de l'illusion d'être prise par le diable. Au reste, Évrard n'était-il pas boiteux ?